bienvenue si vous nous rejoignez. On reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Autour de moi, ce soir, Randall Schwerdorfer, Géraldine Vosner, Pablo Pio Vivien et Perico Legas nous ont rejoints sur ce plateau, nos deux invités ce soir. Naem Bestanji, vous êtes essayiste et auteur de Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Bienvenue sur ce plateau. Et Nicolas Bray, bienvenue également. Vous êtes proviseur du lycée Fénelon à Paris. Et vous êtes membre du syndicat national des chefs d'établissement. Bienvenue à vous sur ce plateau. On va revenir ensemble sur cette affaire dans le lycée Ravel du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur qui a donc annoncé quitter ses fonctions, il a été la cible de menaces de mort sur Internet après son altercation. C'était il y a un mois avec une élève majeure qui avait refusé d'enlever son voile dans l'enceinte scolaire. Son avocat s'est exprimé sur BFM TV tout à l'heure et il confirme qu'il est bien parti pour raison de sécurité. On écoute.
Il n'a jamais pris un arrêt de congé, il a fait preuve d'un extrême courage et il a très clairement indiqué que c'était pour des raisons de sécurité pour son établissement, pour ses collègues qui le choisissaient de se mettre de côté. Et d'ailleurs, quand il a annoncé cela aux parents d'élèves dans un courrier, et pour lui bien sûr, il a été pris d'une grande anxiété, vous le devinez. Et ses collègues, quand ils ont appris qu'il volontairement se mettait de côté, y compris pour assurer le suivi des 6 plaintes qu'il a déposées auprès des services de police, eh bien, ils l'ont remercié. Ils l'ont remercié et actuellement, son moral, je vous dis tout de suite, remonte très sensiblement avec le fait qu'il réponde en permanence à tous les collègues.
Intéressant ce que dit l'avocat. Il dit non, il est bien parti pour raison de sécurité. Et si on insiste là-dessus, c'est parce que le rectorat semblait tenir une autre version. Je rappelle les mots qu'il a utilisés, des convenances personnelles, un départ anticipé à la retraite à quelques mois de celle-ci. Non, c'est bien pour des raisons de sécurité. C'est étonnant, non, ce communiqué du rectorat.
Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux en réalité. C'est parce que la première chose, c'était d'assurer la sécurité du collègue. C'est pour ça que nous-mêmes, pendant quelques temps, on est un peu resté discret. Ça répondait à une attente de notre collègue. Et donc, le rectorat a communiqué sur ce mode-là, qui était peut-être pas le plus adapté, mais je crois qu'on peut pas opposer l'un à l'autre.
C'était vraiment justement pour le protéger.
C'était vraiment pour le protéger.
Parce que je voulais qu'on écoute un autre témoignage, celui de Miguel Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. Il y a des similitudes entre les deux affaires, ou en tout cas la genèse des deux affaires. Elle dit que c'est vraiment mal nommer les choses. Et pour elle, les propos du rectorat, ça correspond à ce pas de vague qu'on pointe du doigt de plus en plus. On l'écoute.
On en reste toujours là. On en reste de mal nommer les choses. Finalement, on n'a jamais le comportement qu'on devrait avoir derrière. Donc, ce contraste, effectivement, entre des propos du rectorat qui minimisent encore la situation, parce que si la peur est une convenance personnelle, à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question. Alors que je pense que le ministère de l'Éducation nationale confondu, mené par ses rectorats, retrouverait un petit peu ses lettres de noblesse, celles qui ont été pourtant très importantes à un moment, en disant clairement les choses, parce que personne n'est dupe, en fin de compte, de leurs propos, et ça entraîne plutôt un sentiment de « Ah, en fait, vous n'avez toujours pas compris ».
C'est ce que vous vous dites aujourd'hui?
Oui.
Vous vous dites « Ils n'ont toujours pas compris ».
Non.
Naem Bestanji, vous comprenez cette réaction de la sœur de Samuel Paty? C'est le pas de vaguisme, d'une certaine manière, cette réaction du rectorat?
Oui, alors j'ai écouté l'interview ce matin et je rejoins tout ce qu'elle dit. Dans ce qu'elle a dit, il y a aussi le fait qu'elle dise que les services de renseignement sont bien informés. Normal, c'est leur métier. Ils sont bien informés. Le problème, ce n'est pas l'information, c'est ce qu'en font ceux qui sont censés prendre des décisions, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans les établissements scolaires. Ils font aussi avec les informations qu'on leur donne. Le sentiment de pas de vague, c'est aussi parce que des enseignants et aussi dans les rectorats, comme dans la société française, on a peur de passer pour intolérant. Est-ce qu'on va assez trop loin, pas assez loin? Il faut ménager la chèvre et le chou parce qu'on veut pas passer pour ceci, pour raciste, pour anti-musulman ou je ne sais quoi. Tout le problème, c'est en fait l'ignorance de ce qu'est l'islamisme. Que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou que ce soit dans toutes les branches de la société.
Encore aujourd'hui, on ignore
encore aujourd'hui, l'islamisme. Encore aujourd'hui, parce que souvent, par exemple, on considère que l'islamisme est synonyme de terrorisme. C'est faux. Dans l'islamisme, il y a des terroristes, mais il n'y a pas que ça. La plus grande menace pour la République, c'est l'islamisme politique. Ce n'est pas le djihadisme. Le djihadisme à court terme fait des morts, des catastrophes, c'est indéniable. Mais les plus graves conséquences sont au niveau de l'islamisme politique. S'il n'y avait pas eu l'islamisme politique, par exemple, il n'y aurait sans doute jamais eu la mort de Samuel Paty ou la démission de ce proviseur.
Géraldine Vosner, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que c'est le monde à l'envers. C'est la victime, ce professeur menacé, à qui on conseille de partir. Il a utilisé ce mot, Gabriel Attal, hier. Hein, on lui a conseillé de partir pour raison de sécurité.
On découvre qu'en fait, on peut être poussé à la démission de l'éducation nationale tout simplement pour avoir prétendu faire appliquer à l'intérieur de l'établissement les lois de la République. Enfin, c'est quelque chose d'assez sidérant. Ce qui me frappe, moi, dans cette affaire, c'est les similitudes qui montrent un process. C'est pas une histoire isolée. C'est il y a un processus qu'on a connu avec Mila. Rappelez-vous, Mila,
qui avait osé critiquer l'islam.
Elle était en réponse à un harcèlement anti-homosexuel. Le mensonge s'installe, on l'accuse d'avoir agressé. Samuel Paty, c'est aussi un mensonge d'une élève qui a prétendu qu'il avait exclu les musulmans de son cours, ce qui était faux. Là, on est encore dans le cadre d'un mensonge. Elle a raconté qu'il l'avait frappé. Et c'est pas des actes isolés. Ce sont des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font. Ils activent une logique victimaire parce que c'est un projet. C'est un projet politique porté par des gens qui ne supportent pas qu'on ne se soumette pas à leur religion, à leur vision de la société. Et pourquoi ils frappent l'éducation nationale ? Parce que c'est là justement où on permet aux élèves, aux enfants, de s'extraire de leur logique communautaire. On leur dit, vous pouvez parfaitement être croyant, vous pouvez croire, mais simplement ici, apprenez qu'il existe d'autres visions de la société, une vision scientifique, une vision rationnelle, et c'est ce que ne supportent pas les idéologues de toutes les religions et aujourd'hui de l'islam.
Alors, vous souhaitiez tous réagir, Perico Legas.
Entendre dire que le rectorat a suggéré de donner cette version apaisante pour protéger l'enseignant, le proviseur, c'est une défaite politique monstrueuse. Ça veut dire qu'on capitule, la République capitule, on préfère inventer quelque chose de faux parce qu'on se couche devant l'intégrisme musulman, parce que c'est ça la vérité des faits. On s'écrase, et il faut s'écraser. Alors, ça serait la première fois, on pourrait dire, oui, je comprends par mesure, comme on ne sait pas ce qui se passe. C'est la troisième ou quatrième fois que l'institution scolaire, au plus haut niveau, gouvernement compris. Alors ensuite, on réagit une fois que c'est trop tard, quand on se rend compte des dégâts que ça fait dans l'opinion publique. Mais la première version, c'est pas seulement pas de vague, c'est cachons-nous, taisons-nous.
Mais Perico, c'est parce qu'elle crève de trouille.
Donc les islamistes, j'annonce ce soir, et je suis pas le seul, ils ont gagné. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner la guerre. Cette bataille-là, nous l'avons perdue. Comme celle d'avant. Alors peut-être, à force de perdre des batailles, de s'écraser, de s'humilier et de collaborer quelque part avec cet islamisme qui est en train de terroriser la société et de défaire la République, peut-être qu'un jour nos institutions et l'opinion publique prendront le taureau par les cornes et prendront les mesures qui s'imposent, parce que là nous sommes dans un état de guerre psychologique et de guerre politique.
Nicolas Bray, pourtant vous vous dites non, c'est pour des raisons de sécurité pour le proviseur, ça vous a pas particulièrement choqué. Est-ce que quand même vous partagez le constat de Perico Legas, les professeurs, le corps enseignant a peur à la trouille aussi?
Non, bien sûr, ça, il faut. Enfin, ce point-là, je le partage. Sur le proviseur n'a pas démissionné, donc on peut pas dire qu'il a été poussé à démissionner. Non.
On lui a conseillé de partir. C'est
autre chose. Venez assister à notre conférence de presse demain.
Il serait parti même sans cette affaire. C'est ce que vous nous dites?
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, madame. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et au contact, notre syndicat a des positions très claires et très nettes contre toutes les atteintes à la laïcité, et y compris celle de l'islamisme politique. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Aussi contre un certain nombre de mouvements religieux intégristes catholiques qui font de la formation d'enseignants dans le privé. Donc il ne s'agit pas de minimiser un certain nombre d'atteintes à la laïcité. Elles sont très nombreuses. Et je dis que dans le cas présent, le chef d'établissement a marqué... Enfin, s'il était resté en poste, quelle décision aurait-il fallu prendre? Il était nécessaire de le protéger à un moment quand même, me semble-t-il.
Il a bien fait de démissionner, de quitter son poste.
Il n'a pas démissionné.
Alors, donc, il a bien fait de quitter son poste.
Mais il y a un moment, il y a eu un échange, et ça ne veut pas dire qu'on abdique pour autant. Ça veut dire
là, c'est une abdication. De fait, alors mais, peut-être qu'on va la réparer.
Mais,
le professeur qui dit je me retire, c'est l'abdication de la République, c'est pas seulement la sienne.
Monsieur Perico-Légas, les chefs d'établissement sont au contact. Les enseignants sont au contact également, et nous menons ces combats et ces luttes régulièrement et fréquemment.
Mais il a bien fait donc de quitter son poste. Attendez, j'aimerais entendre la réponse.
C'est une décision qui lui appartient dans un contexte donné, et il m'appartient pas de juger lui ce qu'il ressent et ce qu'il vit.
Vous l'auriez fait vous à sa place dans le contexte.
Je n'en sais rien. Il m'appartient moi de dire en tant que représentant syndical. Qu'on a des positions très fermes sur les questions de laïcité, y compris contre l'islamisme radical, y compris contre l'islamisme politique, et que celles-ci, on les porte. Maintenant, quand on est individuellement soi-même menacé, quelle position on adopte ? Je serais bien prétentieux de dire que je resterai droit.
Mais vous le voyez pas comme un échec, donc.
Je le vois comme lui. C'est hors sujet.
L'avocat a bien dit que les messages de soutien le soulagent. Donc cet homme s'est senti seul et abandonné à un moment donné.
Pablo Pio Vivien.
Oui, moi j'aimerais poursuivre ce que dit Monsieur Bray, parce que en vérité, ce qu'essaie de faire Monsieur Bray, c'est de rappeler que force est à la loi, mais pas à la guerre civile, et que il faut faire très attention en fait dans la façon dont aujourd'hui on cherche à appliquer la loi. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais aujourd'hui le ressort principal pour qu'une loi soit universelle, son ressort principal ne peut pas être la contrainte. Et il faut absolument, et c'est ça, on dit le pas de vaguisme, mais en fait c'est pas le pas de vaguisme, c'est juste éviter en fait la guerre civile dans notre pays. Éviter que et c'est terrible, le climat de menace aujourd'hui sur nos professeurs est absolument inadmissible. Ce qu'a subi ce professeur, les insultes et les menaces de mort dont il a été l'objet, enfin dont il était même la victime, sont absolument inadmissibles. Mais à un moment donné, il faut faire redescendre aujourd'hui la pression sur les professeurs.
Et donc mal nommer les choses, est-ce que c'est
non,
la solution?
Il ne s'agit pas de mal nommer les choses. Il s'agit de créer en fait un climat dans lequel il puisse y avoir une entente, c'est-à-dire envisager. Vous savez, la loi de 1905, elle est très intéressante. En 1905, vous aviez des anticléricaux hyper radicaux qui avaient envie de bouffer du curé, et de l'autre côté, vous aviez Aristide Briand en fait qui essayait d'aménager. Il a essayé en fait en composant en fait cette loi de 1905, ils ont essayé d'aménager en fait un climat qui fasse que tout ne parte pas à volo en France. Et il a gagné la peste.
On n'a tué personne en 1905.
Mais et tant mieux, grâce à Aristide Briand.
Aujourd'hui, tu parles de guerre civile, ceux qui sont décapités, c'est les profs.
Mais je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aujourd'hui absolument œuvrer en fait à la paix civile. On ne peut pas...
Ça veut dire... Il faut capituler.
Pas du tout, il ne faut pas capituler.
Il y a un violent, il y a un fort, il y a un faible, il faut que le faible se
touche. Il faut que le ressort, pour faire appliquer la loi, on ne peut envisager que ça soit uniquement par la contrainte.
Il n'y a pas deux camps qui s'opposent. Il y a un agresseur, il y a une victime.
Non, il y a la loi qui doit s'appliquer partout sur le territoire dont c'est son ressort.
Alors, j'aimerais qu'on entende Randall Schoendorfer, avocat, qu'on n'a toujours pas entendu.
Le vrai problème, à mon sens, c'est qu'on ne peut pas demander à des enseignants de porter des gilets pare-balles, et on ne peut pas demander à des enseignants, lorsqu'ils embrassent la carrière de l'enseignement, d'assumer le risque de se faire décapiter ou de subir des violences ou d'être la cible de menaces. C'est pas leur métier. Moi, je viens d'une génération où on ne menaçait pas les professeurs. Ça n'existait pas. Où un proviseur faisait son travail, c'était tendu parfois, mais il n'y avait jamais de menace, il n'y avait jamais de violence. C'est nouveau. Ça existe depuis quelques années. Le cas Samuel Paty est un cas emblématique. Abominable, et c'est un échec sociétal. C'est pas un échec de l'institution de l'éducation nationale, c'est un échec sociétal. Il appartient à nos politiques de faire régner la sécurité sur le territoire national. Je comprends cet enseignant, ce proviseur qui dit « moi je veux pas exercer avec une sécurité rapprochée, j'ai pris des risques ». En fait, je suis enseignant, je suis pas là pour avoir une cible au milieu et de me faire tirer dessus. J'ai pas choisi d'être légionnaire, moi. J'ai pas choisi d'être dans les forces spéciales ou dans le GIGN. J'ai choisi d'enseigner. C'est pas quelque chose de violent d'enseigner. Donc je ne veux pas subir cette violence, ça ne me va pas, je préfère me retirer. C'est pas un échec pour moi, je le comprends tout à fait. Que le rectorat communique de cette façon-là, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils n'osent pas comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas l'assumer, je le comprends. Mais le responsable de ça, c'est le politique aujourd'hui. Le modèle social que nous avons ne va plus, politique ne va plus. Et je pense qu'effectivement, on l'a vu, notamment avec les réactions de Gérald Darmanin. Récemment, on en avait parlé avec l'extradition d'un imam qui prêchait, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait des prêches extrêmement radicales. C'est ce genre de réaction qu'on attend de l'État. C'est à l'État de réagir et de réagir aussi en amont. Faire veiller à la laïcité, c'est pas dans le collège ou dans le lycée, c'est avant.
Évidemment.
C'est avant. S'il doit y avoir des interventions des forces de l'ordre pour des jeunes filles qui viennent voiler, c'est avant. C'est pas l'enseignant de prendre des risques. La police est payée pour ça. Quand je deviens policier, je sais ce que je fais. Même si je ne cautionne pas qu'on menace des policiers ou qu'on violente des policiers. Mais ils ont un métier où ils sont confrontés à la violence. Que nos enseignants soient confrontés à la violence, on est dans la normalité la plus totale pour nos enseignants. Et je comprends tout à fait cet enseignant qui, à un moment, dit « Moi, écoutez, je suis pas à ma place, je suis pas une cible, moi, je suis là pour enseigner, pour apprendre aux gens. »
Tu dis avoir vécu un vrai calvaire, je le rappelle.
C'est évident, c'est là, et puis avec les risques qu'il y a.
J'ajoute, et on l'annonçait hier soir, que l'État donc dépose bien plainte contre l'élève en question pour dénonciation calomnieuse. Est-ce que, selon vous, la réaction de l'autorité, des autorités, est à la hauteur?
Alors, pour ce cas-là, pour cette action-là, évidemment, qui va dire le contraire. Je reviendrai sur ce qui a été un petit peu dit. On entend souvent l'expression islamisme radical. J'aimerais bien savoir ce que c'est que l'islamisme modéré. Il n'y a pas d'islamisme modéré. L'islamisme radical, c'est un pléonasme. Je développe justement ça dans mon livre pour expliquer que il n'y a pas d'islamisme radical. On ne parle pas de nazisme radical, sous-entendant qu'il existerait un nazisme modéré.
Non, mais pour le coup, excusez-moi, il existe. Non, mais
je termine mon propos.
Okay. Voilà. Après, je vous pose une question.
Il y a l'islamisme politique, il y a l'islamisme djihadiste. Les deux sont du même terreau. Ils ont la même idéologie. Les différences se trouvent sur la méthode, se trouvent sur la temporalité et se trouvent sur la façon de se confronter à la société. Les djihadistes s'y confronter frontalement. L'islamisme politique veut intégrer la société pour la travailler, la faire changer de l'intérieur. Et pour eux, ils comptent sur plusieurs générations. C'est pour ça que la loi de 2004 est un totem à abattre et qu'ils comptent sur la prochaine génération pour la changer. Et une des stratégies, c'est la stratégie victimaire. Cette jeune fille qui a menti, qui a hurlé en disant que le proviseur l'avait violentée, elle rentre typiquement là-dedans. Elle est baignée dans une idéologie qui réclame ça. Et c'est pour ça que toutes ces affaires sont liées, non pas par des individus qui se coordonnent, mais par une idéologie qui les formate en leur expliquant qu'ils sont victimes de la société. Et c'est pour ça que je dis que l'islamisme politique est beaucoup plus dangereux pour la société, parce qu'il travaille sur le long terme. Si aujourd'hui vous avez des jeunes qui sont contre la loi de 2004 parce qu'ils disent que ça opprime les musulmans, c'est un travail de sable de l'islamisme politique, pas du djihadisme.
Vous aviez une question?
Oui, moi, j'ai juste une question. Vous disiez que l'islam politique modéré n'existe pas. Il existe.
J'ai pas dit ça.
L'islamisme, pour le coup, excusez-moi. L'islamisme, la racine en fait du mot islamisme, c'est l'islam politique. Il y a de l'islam politique. Ah, bien sûr, l'islam politique modéré, il existe dans beaucoup de pays. En France, il doit exister aussi.
J'ai pas parlé
aussi,
d'islam politique modéré ou pas.
D'accord. Et vous me demandiez si ça existait. Bah, je vous dis oui, ça existait. On peut prôner un islam politique qui soit modéré. Qu'est-ce que vous entendez par islamisme?
Juste, alors.
Allez-y, répétez.
En 30 secondes, j'ai fait tout un chapitre sur mon livre. Je vous propose de le lire. Pour expliquer ce que c'est que l'islamisme. L'islamisme, c'est synonyme d'intégrisme musulman. D'accord. Donc, il y a le fondamentalisme. Je vais faire très court.
Si vous voulez, mais dans ces cas-là, on peut parler d'islam politique modéré. Et ça peut exister.
Mais tu veux changer les termes?
Non, il n'y a pas d'islam politique modéré ou radical. Il y a l'islamisme politique. Il y a l'islamisme djihadiste. Il y a la violence d'un côté, il y a la politique de l'autre. Les méthodes sont différentes, mais les objectifs, les idéaux sont les mêmes.
Il peut y avoir un islam politique modéré, et que ça peut exister. Mais si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que vous donnez le choix entre un islamisme modéré et un islamisme radical. Je vous dis, il peut y avoir.
Non, j'ai pas dit qu'il y a un islamisme modéré ni radical.
Il peut y avoir un islamisme modéré existant, y compris sur le territoire français, comme il y a des mouvements chrétiens démocrates, etc.
C'est pas du tout comparable. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est pas parce que vous comparez le christianisme avec l'islam que vous avez forcément raison. Les deux religions ont des racines communes, mais c'est pas pour autant qu'on peut les comparer ni sur leur histoire, ni sur la méthodologie de leurs propres intégrismes, et sur le plan politique, ça n'a rien à voir.
Encore une fois, on peut dissocier l'islam de son intégrisme.
Une dernière question que je souhaitais poser.
J'ai pas dit le contraire.
L'islam est une religion politique.
Une dernière question que je souhaitais poser à Nicolas Bray, qui est donc, je rappelle, proviseur du lycée Fénelon, qui est plutôt épargné, c'est ce que vous aviez l'air de me dire tout à l'heure pendant la pub. Est-ce que cette affaire-là, en revanche, elle a fait beaucoup parler dans le lycée, chez vos enseignants? Est-ce qu'il y a une peur aussi dans vos équipes?
La crainte existe chez les enseignants, on l'a cité tout à l'heure, depuis Samuel Paty, bien évidemment,
Dominique Bernard
également. Enfin, cette crainte existe, et c'est au rôle aussi les chefs d'établissement. Enfin, nous, vous aviez évoqué la loi de 1905 tout à l'heure. Ça fait partie de nos fondements, de ce qu'on défend. On ne souhaite pas d'adaptation de cette loi. Elle nous semble telle qu'elle applicable et on doit la porter.
Ça s'appelle la loi sur la liberté des cultes. Je rappelle son nom, où le mot laïcité n'apparaît pas une seule fois.
Non, c'est la loi de séparation des églises et de l'État.
Merci beaucoup. Merci à tous et merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci pour vos éclairages.